Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Qu'est-ce qu'un monopsonie? Est-ce que Nvidia a complètement abandonné ARM? Est-ce que Meta a complètement lâché Diem? Est-ce que Spotify va lâcher Joe Rogan? Tout ça et toute l'actu tech, c'est dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines de manière simple et j'espère agréable. On passe en revue tout ce qui s'est passé, on écume les blogs, les podcasts, les vidéos YouTube, on prend toutes les informations et on les distille dans vos oreilles. Non, ça commence à devenir un peu bizarre. Je suis Patrick Béja et je suis... Non, parce que je fais toujours ces petits monologues au début comme ça d'un trait et parfois ça part dans des directions un tout petit peu malheureuses. Sauvez-moi, Cédric Deluca et Jérôme Kainborg, comment allez-vous aujourd'hui? Merci d'être là avec moi.
Écoute, super bien.
Ça va super et bonne année de vive voix à toute la communauté. Rendez-vous
on est le 1er février.
Jérôme, on est en février.
Mais je m'en fous, je fais ce que je veux.
Mais moi, j'ai une excuse, j'étais pas là le mois dernier.
C'est voilà. Vrai, mais Jérôme non plus en fait. On était encore en vacances. Plus. Bon, donc ok, ça ira pour cette fois, mais en 2023, attention, hein, faut rester en janvier. Un merci, grand merci.
Pas le droit de faire des enfants, quoi.
Si, ouais, non, toi, ça suffit, Cédric, maintenant. Hein. Ça fait,
ça
commence à faire beaucoup.
Prévu numéro 4, 5, 6.
Bon, tant que tu peux revenir dans l'émission assez vite, on sera content.
Mais pour faire une équipe de LOL, il faut être 5. Hein.
Et, donc, ben, c'est
ouais,
ça.
C'est vrai, c'est pas mal.
C'est ça.
Ouais. Tu vas bientôt pouvoir faire des raids tout seul en famille. Hein.
Exactement.
Voilà.
C'est quoi dimanche en raid en famille.
C'est notre objectif à tous, hein, clairement. Avoir des enfants, c'est à ça que ça sert. Félicitations, du coup, on le disait avant de lancer l'enregistrement avec les amis du chat sur Twitch. On est là tous les mardis à midi. Donc, félicitations, Cédric. Un troisième. Bravo et bravo à madame. Donc, toi, tu vas être bien occupé dans les années à venir.
Ouais, c'est ça.
Un grand merci à Jean-Claude, Jordan Gatta, SSI, Frédéric Jarre, Juju Keke, Julien Vinel, Fréret, Rolio, Ludovic Pécat et Eric, ainsi qu'aux producteurs Derek Herbe et Léthargique Panda qui méritent bien leur... Merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Je vous aime tous et toutes d'amour, tous les auditeurs et les auditrices, évidemment. Mais ceux-là que je viens de citer, quand même, je les aime un tout petit peu plus. Il y a, en fait, dans mon cœur, il y a la famille, les amis, les patriotes, les gens que je connais pas, et puis après, il y a Jérôme. Mais bon, on va se lancer dans l'actualité. <Ouais. rire> on va se lancer dans l'actualité immédiatement avec Nvidia qui lâche son acquisition prévue de ARM et Meta qui lâche son lancement prévu de Diem. On va pas forcément passer deux heures sur ces deux infos, mais elles sont quand même assez importantes à noter parce que c'est un petit peu les grands projets, les grands travaux, enfin deux des grands travaux de l'industrie tech qui tout à coup se cassent la gueule un petit peu en même temps. C'est pour des raisons différentes. Nvidia, vous vous souvenez qu'ils avaient prévu d'acheter ARM pour, c'était combien ? 40 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Et du coup, maintenant, c'est abandonné pour plusieurs raisons. D'une part, les questions de régulation, de loi, qui en Angleterre, en Europe et aux États-Unis regardaient cette acquisition en disant « Les gars, ça fait un petit peu beaucoup de pouvoir dans une même société. » Moi, je vous avoue que je pensais que la société, enfin, l'industrie restait compétitive, mais disons que le vent tournait mal. Et surtout, une partie de ce deal était prévue en action Nvidia. Or, en particulier avec la pandémie, tous les fabricants et fondeurs et designers de processeurs ont énormément de gagné de valeur. Donc, de là que le deal était prévu à 40 milliards, aujourd'hui, sa valeur, avec l'augmentation de la valeur des actions Nvidia, était plus au-dessus de 70 milliards. Donc, tout à coup, forcément, ça les intéressait un petit peu moins, un an et demi ou deux ans après l'annonce du deal. Et puis, de l'autre côté, Diem, c'est d'une part pour des raisons de régulation, là encore, c'était la crypto-monnaie imaginée par Facebook qui avait été annoncée annoncé sous le nom de Libra il y a environ 2 ans aussi. Et qui était prévu pour être une crypto-monnaie ouverte et un petit peu universelle, qui s'était ensuite renommée en Diem suite à des difficultés, qui avait été adossée au dollar pour rassurer certains membres de la communauté. Et finalement, à cause de questions de régulation, et on l'apprend par certaines sources aussi, à cause de questions de désaccord entre Zuckerberg et Marcus, qui étaient à la tête du projet, et visiblement Zuckerberg est très focalisé sur le métavers maintenant, et en plus il voulait intégrer tous ses produits de crypto-monnaie à tous ses produits existants, et ben finalement ça a capoté. Ils ne sentent pas que ça va être possible à faire, donc ils ont revendu leur travail et leurs assets à Silver Lake, qui était une banque avec laquelle ils travaillaient pour pas grand-chose, quelque chose comme, combien, je ne vais pas dire de bêtises, 132 millions de dollars, plus 50 en cash, donc on va dire, allez, 180 millions de dollars, et le projet Diem est abandonné, complètement abandonné, donc la crypto-monnaie de Facebook, qui était quand même un gros, gros projet et annoncé en grande pompe, eh bien, ne verra pas le jour. Donc, deux grands abandons, Nvidia et ARM et Meta et Diem. Cédric, est-ce que tu pourrais nous dire si l'un d'entre eux retient ton attention ? Est-ce que ça t'inspire ces deux changements ?
Bon, le coup de Diem, si tu veux, c'est... En fait, j'avais pas compris pourquoi Facebook dans un premier temps. Enfin, si j'avais compris, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu bancal. C'était
l'intérêt d'avoir une crypto-monnaie que tu sur laquelle tu as la main, c'est ouvert et c'est un petit peu séparé, mais quand même, c'était important, quoi.
Je pense qu'il y a un vrai changement de stratégie aussi avec Meta, c'est-à-dire que le principe du métaverse, c'est pas forcément qu'il y ait qu'une seule monnaie, en fait. Que certes, tu peux utiliser ta propre monnaie, etc. Mais je pense qu'ils sont plutôt dans un souci d'ouverture. C'est-à-dire qu'ils embrassent tellement cette idée de ce concept de métaverse qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et commencer par limiter les monnaies d'échange, commencer par limiter les devices sur lesquels c'est, etc., où ça pourra tourner, où on pourra se connecter, avec lesquels on pourra se connecter, c'est pas la bonne strat. Et on l'a bien vu ces dernières années, tous ceux qui continuaient à s'enfermer ont fini par s'ouvrir ou par disparaître.
Je ne sais pas si Diem, je l'aurais qualifié de fermé. Hein. Au contraire, l'idée, c'était justement d'avoir un standard. Que,
oui, mais tu peux soupçonner de favoritisme le fait d'avoir la crypto et l'univers. C'est comme pour le MetaQuest, ils ont changé le nom maintenant de leur casque. Tu pourrais te dire, l'accès au métaverse, c'est uniquement avec des MetaQuests. Dans les faits, ce ne sera pas le cas, puisque leur objectif, c'est vraiment que tout le monde s'y mette. Et ce n'est pas en limitant les devices, en limitant les monnaies, les cryptos, etc. Je pense qu'il faut vraiment aller vers quelque chose de plus ouvert si on veut une adoption massive du métaverse. Internet, aujourd'hui, c'est adopté massivement parce que c'est ouvert et on y fait ce qu'on veut. Et leur idée, c'est la prolongation, finalement. C'est un nouvel Internet de présence virtuel, certes, mais ça reste la base d'un nouvel Internet. Et on ne peut pas dire on fait un Internet fermé. Enfin, on sait très bien que...
Ouais, je me demande dans quelle mesure...
À part en Chine, ça ne marche pas très bien.
Ouais. Je me demande dans quelle mesure, effectivement, la focalisation sur le métavers de Zuckerberg l'a pas conduit à se dire « Non, mais ça, c'est tout un bordel, personne ne va être content, on a déjà suffisamment de problèmes avec le métavers, on ne va pas s'emmerder en plus avec... »
Rappelle-toi, au début, le Libra, tout ça, c'était la monnaie de Facebook pour les échanges sur Facebook. À la base, c'était quand ça... Alors évidemment, on pouvait faire plus de trucs. L'ambition derrière était plus énorme.
Oui, c'est ça.
C'est sûr. Non, l'ambition derrière était d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en gros, avec la monnaie de Facebook, on aurait pu peut-être acheter sa baguette de pain, tu vois. Mais l'idée de base, c'était on commence par le marketplace chez nous, les gens qui font de la pub, etc. On les paye en Libra ou en Diem, du coup. C'était ça l'idée de base. Mais du coup, on commence par... en gros, nous, on est un gros acteur. On lance notre propre monnaie. Elle sera utilisée dans tous nos services. C'est cool. Mais il faut que les autres l'adoptent. Et venant de Facebook, c'est compliqué. Parce que Facebook avait cette réputation sulfureuse, qu'on le veuille ou non. Et puis, la crise actuelle que l'on traverse, que ce soit au niveau des fake news, de la pandémie, tout ça, redore pas le blason de Facebook. Le changement de nom, le changement de stratégie et tout ça nécessite aussi peut-être de faire table rase avec certains projets. Et Diem a fait les frais de ce truc-là, en fait. Voilà.
Ouais, et avec les cryptos, effectivement, c'est pas les trucs les moins problématiques, surtout en ce moment.
C'est ça. Jérôme, c'est pas la peine de rajouter un bâton pour se faire battre, quoi.
Jérôme, pareil, ARM, Diem, c'est des gros changements quand même.
ARM, Diem, je pense que de toute façon, là, on retombe effectivement dans les problèmes antitrust. Nvidia a essayé, hein, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer.
Pour être clair sur ce point, il n'y a pas encore eu de jugement définitif qui a été rendu partout dans le monde qui dit « vous ne pouvez pas ». C'est visiblement, les rumeurs, c'est qu'ils arrêteraient, ils interromperaient cette acquisition volontairement, juste pour que ça soit clair.
Oui, volontairement, parce que ils sentent bien que ça passerait pas. Il y avait déjà l'Europe qui commençait à froncer les sourcils, les États-Unis qui n'ont pas donné un avis favorable.
La Chine aussi, hein, qui y avait des sortes de brevets. Hein.
Et
plus de base, et en plus qui coûte très cher. Donc.
Et là, pour le coup, pour faire l'avocat des lois antitrust, c'est vrai que ça aurait peut-être été une concentration un petit peu inquiétante. De pouvoir dans les mains de Nvidia, qui en a déjà pas mal quand même. Donc, je dirais que c'est la norme des choses. Pour ce qui est de Facebook et de Diem, moi, je pense que là, le groupe Meta, Meta a quand même un gros problème. Dans l'Antiquité, il y avait le roi Midas. Tout ce qu'il touchait, il le transformait en or. Aujourd'hui, on a Mark Zuckerberg. Tout ce qu'il touche se transforme en merde. Honnêtement, non mais c'est rigolo, mais comment tu fais quand ton entreprise a une aussi mauvaise réputation que ce que Meta a aujourd'hui? Comment tu fais pour avancer? Aujourd'hui, en gros, je parle en tout cas en réputation, tout ce que va toucher Mark Zuckerberg et par extension le groupe Meta va être pris avec énormément de
circonspection.
J'ai pas trouvé le mot. Et le bad buzz est quasi instantané. Donc, c'est quand même un problème majeur. Je pense que là, ça va être un gros problème pour le groupe Meta dans les années à venir. Je pense qu'il faut que Mark Zuckerberg disparaisse de plus en plus et que le groupe Meta, un peu ce qui s'est passé avec Uber, je ne vois que ça comme porte de sortie. Il faut qu'il y ait un vrai changement. Un vrai changement de culture et de vision en fait du groupe Meta, parce que sinon ils pourront plus lancer aucun projet.
Sur Uber, Travis Kalanick est carrément parti du poste. Et Zuckerberg, il a toutes les voix, enfin il a la majorité des voix au board, enfin des actions de par vote. Et lui, il veut pas partir. Donc je pense que ça va être compliqué. Mais effectivement, tu as raison. Je crois que sa simple présence. Enfin là, on est à un stade où la seule chose qui pourrait changer l'image de Meta et de Facebook serait un changement à la tête.
Changement de direction.
Et sur Nvidia, je dirais une chose, c'est que je pense que... Moi, je ne suis pas convaincu que ça aurait été trop de concentration de pouvoir, enfin, plus certainement qu'il y en a aujourd'hui, mais il reste quand même plusieurs acteurs importants. Par contre, ça ne va pas faire de mal à Nvidia, ça ne va pas faire de mal à ARM, je pense. Ça va faire du bien à Intel, qui va se retrouver un petit peu plus libre de ses mouvements et moins pressurisé. Par contre, je ne serais pas du tout surpris de voir Nvidia créer des processeurs maintenant, faire des designs de processeurs eux-mêmes, ils en font déjà, mais peut-être s'investir un peu plus au-delà des Tegra et des quelques processeurs qu'ils ont. Peut-être qu'ils vont attaquer ce marché-là aussi. Ils sont très, très forts sur tout ce qui est reconnaissance, enfin, intelligence artificielle, les processeurs de machine learning, etc. Reconnaissance visuelle, les voitures autonomes. Enfin, ils ont énormément grossi. Ils ont c'est leur revenu, je crois, ou leur capitalisation boursière qui est le double de celle d'Intel, qu'on n'imagine pas forcément il y a... comme ça, de prime abord, on se dit qu'Intel est beaucoup plus gros et ce n'est pas du tout le cas, en fait.
En tout cas, je note que je n'aurais pas dû serrer la main de Mark Zuckerberg.
Je ne suis pas certain de te voir dans l'émission, du coup.
Non, mais je plaisante.
Dans la chatroom, on nous demande, est-ce que ce n'est pas la situation de Microsoft au début des années 2000 sous Bill Gates? Peut-être
c'est
un petit peu, mais
grave.
J'ai l'impression que c'est pire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pire. Certes, Microsoft et Windows sentaient très mauvais à ce moment, on est d'accord, mais là, je crois qu'il n'y a personne pour défendre vraiment Meta et Facebook. On les utilise contraints et forcés, et oui, il y a plein de gens qui disaient ça à propos de Windows à l'époque, mais il y avait quand même des gens qui disaient « bah oui, Windows, c'est très cool ». Aujourd'hui, les seules personnes qui apprécient vraiment Facebook, c'est les gens qui l'utilisent pour parler à leurs amis et leur famille et qui comprennent pas bien les problèmes du truc. Et c'était pas du tout le cas, même si certains le diraient, avec Windows à l'époque, je crois. Bon.
Oui, et puis ça montre bien que c'est pas parce que Facebook a encore beaucoup de succès, c'est une entreprise qui marche, mais la réputation, ça compte pour le long terme. Et aujourd'hui, c'est le développement du groupe Meta. Parce que le métaverse, quelque part, bon, je pense que vous avez déjà eu le débat dans le rendez-vous tech, donc on ne va pas le refaire. Why not ? Mais le métaverse par le groupe Meta, rien que ça, ça ne passera pas parce que c'est Mark Zuckerberg derrière, quoi.
Ouais. On pourrait en reparler, effectivement. Mais
ouais.
Une autre question intéressante, pourquoi est-ce qu'on dit Meta à la place de Facebook alors qu'on ne dit pas Alphabet à la place de Google ? Merci dans la chatroom. En fait, Google est de très loin la locomotive d'Alphabet, il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Il y a évidemment YouTube, mais Google regroupe tous les trucs qu'on utilise, Gmail, tout ça, et le moteur de recherche. On pourrait compter Android aussi, mais Android, on le met un petit peu à part. Alors que Meta, il y a vraiment plusieurs gros piliers, que ce soit Facebook, ou WhatsApp, ou Instagram, ou Oculus, qui n'est plus Oculus, tout ça. Donc, je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, Alphabet n'a pas été marketé comme la société qui est le regroupement des autres. C'était juste presque une sorte d'opération
c'est une holding financière. Quoi. Voilà, Alphabet, c'est le nom d'une holding, ce n'est pas un nom commercial, alors que Meta est destiné à devenir le nom commercial du groupe.
On a le logo, on a les
marques. Aurait été édité par Meta et pas par Facebook, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
J'ai oublié de faire la petite intro pour les infos, donc on la fait maintenant, puisqu'on va continuer avec une question d'actualité qui va devenir extrêmement importante, c'est le monopsonie. Qu'est-ce que c'est qu'un monopsonie ? Est-ce que vous savez, tous les deux, Jérôme ?
Ouais, ou... j'ai l'édition Mario Kart du monopsonie.
Non, c'est Patrick, pas ça. Refais-nous le même jeu de mots avec Microsoft dedans.
pas mal. Alors, tu reprends une blague de Cassim sur Twitter qui a dit « Oui, Sony a racheté Bungie, la société de jeux vidéo, mais il est un peu tôt pour parler de Monop Sony. »
pas mal, notre casting exceptionnel.
Elle m'a fait rire.
Elle est très bonne. Alors,
un monopsonie, en fait, c'est un concept qui est vraiment important et qui va le devenir de plus en plus dans les années à venir. Et c'est un concept qui est dans l'air depuis un moment, mais qui a vraiment été cristallisé par la FTC, la Federal Trade Commission, menée par Lina Khan, qui est sa nouvelle directrice, et qui est une académicienne qui a longtemps poussé l'idée que les géants de la tech étaient trop gros et avaient trop de pouvoir. Elle a été nommée à la FTC par Joe Biden et on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus dure sur les rachats, sur l'augmentation de pouvoir des GAFAM. Et le monopsonie est un moyen, sans doute, pour elle d'y arriver. Donc, on connaît tous les monopoles. Un monopole, c'est quand une société a sur un marché donné trop de pouvoir, une majorité du pouvoir, et que ça cause du tort à ce marché par l'intermédiaire. Généralement, en Europe en tout cas, on considère les utilisateurs finaux et les concurrents. Aux États-Unis, ils ont tendance à considérer plutôt les utilisateurs finaux uniquement, et pour considérer qu'un monopole est effectivement néfaste et qu'il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que les monopoles dans les marchés de la tech sont très difficiles à formaliser et à prouver. Un monopole sur qui est censé donc causer du tort aux utilisateurs finaux, quand c'est des produits qui sont gratuits, c'est difficile à quantifier, à formaliser. En quoi est-ce que le fait que Google ait un moteur de recherche qui a une majorité des requêtes, mais qui est gratuit, accessible gratuitement à tout le monde, ça, c'est difficile de prouver ce tort. Et cette vision date du milieu des années 80, au moment des réformes de l'ère Reagan et du début du néolibéralisme. Les monopsonies, qui sont en fait, en français, il y a un terme français, c'est monopole d'achat, c'est comme son nom l'indique en français et pas en anglais, un monopole d'achat. Oui, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, ça me fait rire. Le fait que effectivement en anglais soit pas très très clair en fait.
Mais c'est plus tu, c'est un petit peu plus joli, tu vois, c'est monopsonie, c'est genre ah, oh, c'est mystérieux, ouais. Et c'est le genre de terme, une fois qu'on l'explique, qu'on l'a expliqué, c'est absolument évident et c'est un déclic logique qui fait qu'on comprend beaucoup mieux certaines situations. Un monopole d'achat, c'est une situation où une société ou une entité dans une industrie n'a pas un monopole sur l'offre des produits, mais aspire tous les achats des produits de cette industrie. Et donc se pose en intermédiaire entre les gens qui produisent quelque chose et leurs clients. Et de par ce contrôle de l'achat, comme on est obligé d'aller vers eux pour toucher les clients, eh bien, ils contrôlent le marché, même si les clients finaux ne sont pas autant affectés que quand on a un monopole d'une société qui contrôle toute l'offre directe aux clients. Quelques exemples qui sont, quelques éléments qui sont importants à noter. L'App Store est un bon exemple. En fait, quand on parlait du procès entre Apple et Epic, on avait un petit peu de mal à définir dans quel contexte est-ce que l'App Store aurait un monopole sur un marché, sur cette industrie. Parce que, clairement, les iPhones ne sont pas l'acteur le plus présent sur les téléphones mobiles, du tout. iOS n'est pas l'OS le plus présent. L'App Store n'est même pas celui qui est présent sur le plus d'appareils. Donc, c'est un petit peu difficile pointer du doigt exactement pourquoi c'est un problème. Et je crois d'ailleurs, c'était encore Kassim, décidément, il est présent partout, qui avait donné une bonne approximation de la chose, qui disait, en fait, le problème, c'est que il représente le chemin par lequel on était passé, c'est qu'il représente une majorité des ventes, des sommes rapportées aux développeurs sur le marché des apps. Et si tu contrains le contexte de ton marché aux revenus par app, eh ben, comprennent Android, iOS ou tous les marchés mobiles, eh ben, dans ce contexte-là, Apple et son App Store a le monopole. Et c'est un autre moyen, en fait, on touchait du doigt dans cette explication, cette idée de monopole d'achat. Parce que c'est Apple qui va te permettre de toucher des revenus quand tu es vendeur d'app en majorité. C'est eux qui ont la majorité de l'achat, de la fourniture des apps ou de l'achat des apps aux développeurs. Ils sont l'intermédiaire. Et donc, l'idée d'un monopsonie est adaptée et à ces nouvelles plateformes où on a les acteurs majoritaires qui ne sont pas les gens qui vont fournir les produits ou les services, mais qui vont être en intermédiaire, qui vont être des plateformes. Et donc, c'est ça le concept, et c'est sans doute avec ce concept que la FTC va essayer de ramener, de contrôler ou de calmer un peu les GAFAM. Est-ce que j'ai fait une bonne explication ou pas ?
Oui,
c'est très clair.
C'est vrai que quand Google a pris la place qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'on disait il y a 10 ans, hein, sur le rendez-vous tech. Ce qu'il y avait de très fort, c'est que comme Google ne vendait pas directement de produits à ses utilisateurs finaux, il était extrêmement difficile pour la FTC de l'époque d'attaquer Google sur des situations de monopole. Parce que c'est en fait Google fait de l'argent comme un billard à 3 bandes et ils ne vendent pas de produits à leurs utilisateurs, donc c'est beaucoup plus difficile que à l'époque des grands groupes pétroliers qui avaient des vraies influences sur le marché. Donc c'est bien que la FTC adapte aussi son fonctionnement à ces nouveaux monopoles qui ont pu exister finalement grâce à une faille dans les lois antitrust, quoi. Ouais.
C'est une faille intellectuelle, en fait, qui est simplement
philosophique,
au fait que c'est philosophique, ouais. Et effectivement, ce que j'ajoute, je le précise encore, tu dis c'est difficile de prouver le monopole, et j'insiste sur le point que au final, c'est difficile de prouver que les utilisateurs en souffrent puisque le produit est gratuit. Donc, il faut vraiment inverser la chose et regarder du côté des fournisseurs. Et c'est les fournisseurs qui en souffrent, du coup. Mmh. Ouais, Cédric, pardon.
Je disais, il faut déplacer ça du côté des fournisseurs, effectivement. Ouais. Il faut regarder de ce côté-là. Ouais.
Quand tu vois les conséquences pour Huawei de ne plus avoir Google, tu mesures bien l'importance quand même de Google dans tous les écosystèmes. Et même aujourd'hui, un iPhone où il n'y aurait plus Google du tout, ça serait un problème. Même pour un iPhone. Aujourd'hui, tu dis à un utilisateur d'iPhone, nous, on l'a fait sur la chaîne, Guillaume, pendant un an, a essayé de fonctionner sans Google du tout.
Oh, le pauvre.
C'est marrant. Non, mais c'est marrant intellectuellement, c'est une vraie démarche. Et pour les bidouilleurs, c'est éclatant à faire. Mais même lui le dit, c'est à la limite du vivable. C'est trop pénible par certains aspects. Hein.
Donc voilà, monopole d'achat, c'est vraiment le genre de concept où avant qu'on le formalise, personne n'y pense exactement dans ces termes. C'est du domaine de la recherche, en tout cas du domaine académique. Et une fois que c'est établi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah bah oui, mais bien sûr, c'est comme ça qu'on faut voir les choses. » Moi, je le dis depuis longtemps, Google, ils sont trop puissants, mais c'est pas, on n'arrive pas à le formaliser exactement de la bonne manière. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et on va suivre, évidemment, où ira Lina Khan et sa FTC avec ces idées-là. On vient d'apprendre d'ailleurs que c'est la FTC qui va examiner, enfin a priori, qui va examiner le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et donc, bon, sous Lina Khan, c'est plutôt que le département de la justice américaine. Donc, à voir. Moi, je continue à penser que ça va poser aucun problème parce que, clairement, le marché du jeu vidéo est encore très dynamique. Il y a plein d'acteurs, mais ouais. Mais ouais. À voir.
La question, parce que j'aimerais votre avis à vous deux. Moi, il y a quand même fondamentalement quelque chose, mais c'est peut-être mon ignorance. Le capitalisme, entre guillemets, quand tu diriges une société, un groupe, le capitalisme te pousse à être de plus en plus puissant. Et derrière, en fait, le seul truc qui t'attend, c'est un espèce de couperet qui te dit « Bon, bah maintenant, t'es devenu suffisamment puissant, t'es trop puissant, on te coupe la tête. » Ou on te dissèque.
Oui, il y a quand même, je suis pas sûr que ça aille jusque-là, mais oui.
Oui, non, mais quand même, il y a un paradoxe philosophique. C'est-à-dire que on dit une société doit devenir toujours en croissance, de plus en plus puissante. Mais attention, si tu deviens trop puissant, on va te démanteler. je m'amuse de cette idée. Je comprends en vrai pourquoi ça existe. Mais il y a quand même un paradoxe fondamental dans le capitalisme.
Ouais, on quitte un petit peu la tech, hein. Mais moi, je crois que c'est pas regarder les choses de la bonne manière. Je pense que, tu sais, je suis un éternel. Tu connais les alignements dans Donjons et Dragons, chaotique, bon. Moi, je suis
un neutre,
exactement. Et pas un neutre neutre parce que je prends position sur rien. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait un équilibre et que différentes forces en présence sont importantes. Et en l'occurrence, c'est pas « Ah ben, on t'encourage à être super fort jusqu'à ce qu'on te coupe la tête ». C'est que c'est deux forces qui s'opposent et qui doivent atteindre un équilibre. Il faut qu'on ait d'un côté des gens qui soient en train de pousser pour avoir une dynamique économique et d'innovation. On parle de tech, hein, donc c'est ce que j'évoque. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait une autre entité, qui est l'État, qui s'assure que ça ne dérape pas. Et j'irais jusqu'à dire que le capitalisme, ce n'est pas juste les sociétés qui font ce qu'elles veulent et que le gouvernement s'y oppose. C'est que le capitalisme, c'est justement les sociétés qui font plein de choses et que le gouvernement contrôle. Parce que si tu n'as pas cette force du gouvernement qui contrôle, tu te retrouves dans une sorte d'anarchie qui devient excessive et néfaste. Et donc, le capitalisme a comme composante essentielle un marché juste, entre guillemets, hein, bien sûr, mais un marché régulé pour en éviter les excès. Donc, je crois que...
C'est à partir du moment où tu deviens néfaste pour le marché dans lequel tu agis. C'est là qu'en fait, y a besoin d'intervention, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'au risque de tout faire effondrer, il vaut mieux une régulation, en fait.
Ouais, et je crois que le risque de tout faire effondrer est assez faible. Peut-être que ça peut changer les données, effectivement, et les composantes du marché. Mais bon, on sera d'accord.
Non, mais créer un déséquilibre entre les sociétés toutes puissantes, les États, les utilisateurs de ces, de ces services-là ou les clients de ces sociétés-là. C'est là, en fait, quand le déséquilibre est trop important que il faut peut-être agir. Surtout quand tu n'as pas d'alternative. Bah, l'exemple de Google que tu donnais, Jérôme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu as du mal à trouver une alternative, c'est que déjà, il y a un problème, en fait.
Ouais. Et que le marché en souffre. Alors, pour Google, ce n'est pas une bonne affaire parce qu'ils ont moins de pouvoir. Mais c'est pas que le capitalisme est entravé. C'est que le capitalisme n'a pas bien fonctionné. Parce que pour que le capitalisme fonctionne en tant que doctrine économique, il faut un marché dynamique où les concurrents peuvent exister.
Il faut laisser la place à tous les acteurs et pas juste qu'ils se soient rachetés tous entre eux.
Il faut que la concurrence puisse dynamiser le marché. Et là, le problème qu'on a, c'est que, enfin, c'est une des théories, c'est que justement, la concurrence devient très difficile parce qu'ils ont trop de pouvoir. Pardon, vas-y.
Non, mais je suis 100% d'accord avec vous, mais là, on va arrêter la philo, mais globalement, il y aurait quand même la place pour une nouvelle doctrine économique, parce qu'il y a un côté absurde à te donner, le capitaliste te dit de faire quelque chose, mais dans les limites de, attention, il y a des sanctions. On pourrait les prévoir en amont aussi, de dire aux entreprises, attention, voilà les règles.
Mais elles sont claires, les règles.
On a quand même l'impression, Patrick, on a quand même l'impression que les sociétés grossissent jusqu'à ce qu'elles tapent sur les règles, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc,
sauf que.
Oui, mais.
Tu sais pourquoi ?
Lançons un ordre nouveau.
Mais tu sais pourquoi ?
Lançons une nouvelle théorie économique.
Moi, je pense que l'une des raisons. Le patrixme, on la connaît bien.
Le patrixme, exactement.
La nouvelle théorie. Le patrixme,
c'est réussi, mais pas trop.
Non, c'est Patrick décide. C'est Patrick décide, c'est pas compliqué. Patrick dit, maintenant, Google, vous êtes trop gros, désolé. Et ça, vous le savez depuis le départ, quand Patrick décide. Mais plus sérieusement, l'un des problèmes qu'on a eu avec l'évolution des géants de la tech, c'est que c'est un domaine qui est tellement nouveau que les règles sont difficiles à appliquer, les règles existantes. Donc, il faut en découvrir de nouvelles. C'est un peu pour ça qu'on parle de monopole d'achat. Le concept existe depuis longtemps, mais il n'était pas applicable ou appliqué de la même manière parce qu'il n'y avait pas de marché, de gros marché sur lequel ça, c'était cohérent d'en parler. Et il y a plein d'éléments comme ça. Par exemple, Uber ou la gig économie en général, les règles qu'on a jusqu'à maintenant ne s'appliquent pas tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent « oui, mais c'est des employés, c'est très simple, on rentre dans le cadre d'employés et basta ». Non, pas tout à fait. Il y a plein de choses qui font que ce n'est pas exactement des employés, les gens qui travaillent dans ce type de contexte. Et ce n'est évidemment pas non plus des indépendants totaux. Donc, tu vois, il y a plein de chamboulements comme ça qui sont tellement importants que les règles existantes ne s'appliquent plus tout à fait. Donc, on bégaye, on hésite, on ne sait pas très bien comment l'aborder jusqu'à ce que ça soit tellement un problème qu'il faille revoir les règles en profondeur au point que que ça arrive à ce point-là. Je mentionnais une chose qui est intéressante. On est vraiment parti dans de la philosophie et dans laquelle on n'est pas expert, mais
par contre, il y avait une excellente remarque dans le chat où il disait est-ce que le gouvernement US ne va pas affaiblir les entreprises face à ses concurrents de Chine ?
Alors, c'est de ça que je voulais parler de Monsieur Lazare. Voilà. Parce qu'en Chine, effectivement, on pourrait se dire ils ne vont pas réguler. Et il y a un an ou deux, j'aurais peut-être pensé que cette crainte était justifiée. Vu ce qui s'est passé cette année en Chine et le coup de bâton terrifiant qu'a mis le Parti communiste sur toute l'industrie tech, on n'est plus tout à fait dans le même contexte. Alors peut-être que ça reste des questions à se poser, mais vraiment, depuis un an, je pense que les gens qui veulent se lancer dans la tech disruptive en Chine, ils réfléchissent à deux fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des choses, mais c'est plus aussi clairement un déséquilibre avec un déséquilibre avec d'autres pays. Que ça aurait pu l'être.
Non, c'est plus un déséquilibre avec le régime en place plutôt que.
Le capitalisme à la chinoise a des règles quand même très particulières, avec un bain d'acide à la clé si tu outrepasses des règles qu'il décide tous les matins. Quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, effectivement, là encore, comme on dit dans la chatroom, ça se ressent au niveau des investissements qui se sont refroidis. Mais ça commence à reprendre en même temps parce qu'une fois que les règles sont établies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans ce genre de marché. Donc, ça reste un petit peu en suspens quand même.
Moi, je trouve que c'est un débat passionnant, mais on ne va pas le faire ici.
Complètement. On pourra en parler pendant des heures, mais je pense qu'on en a cerné les contours. Donc, merci d'avoir présenté le débat, Jérôme. Mais un truc qui est absolument sans limite, c'est l'amour que je porte aux Patriotes. Les Patriotes, c'est ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Et vous savez que vous pouvez soutenir l'émission pour, allez, le prix d'un café. Comme je le dis parfois, si vous buvez 10 cafés par semaine, eh bien, peut-être que vous pourriez sacrifier un café pour soutenir le rendez-vous tech. Et là, vous vous dites, mais non, attends, je veux mon café. Et là, je vous dis, OK, mais si on a un monopsonie du café, non, c'est pas ça. Si on a une option, et je vous dis, OK, vous avez vos 10 cafés, mais pas de rendez-vous tech. Est-ce que ça vous fait réfléchir ? Votre option, c'est 10 cafés et pas de rendez-vous tech, ou 9 cafés et le rendez-vous tech ?
Eh bien, si Patrick, ça vous fait réfléchir... Il ne faut pas le faire par le punitif, tu dis. Patrick favorise votre sommeil en vous privant d'un café par jour. Voilà, c'est comme ça, l'incitatif.
Je le faisais avec les
petits snacks. C'est bon pour la santé.
C'est bon pour la santé de contribuer au podcast. Voilà.
Tout à fait. Donc, si vous voulez, vous aussi, avoir une santé améliorée, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Et en plus, hein, accessoirement, vous aurez droit à tous les bonus, les flux sans pub. D'ailleurs, il y a des éditos qui vont arriver. Je viens d'en faire un la semaine dernière sur mes projets de 2021, comment ça s'est passé et ce que j'aimerais faire en 2022. Il y en a un qui arrive sur pourquoi les NFT dans le jeu vidéo sont-ils véritablement néfastes, à mon avis, parce qu'on leur crie dessus, on les engueule, mais pourquoi est-ce qu'on pense que dans le jeu vidéo, hein, spécifiquement, est-ce que ça serait vraiment néfaste concrètement dans l'économie des jeux ? Je détaille ça dans l'édito qui arrive demain. Et la semaine prochaine, je vous fais un édito sur mes bilans et les tendances de la pub et des revenus et des abonnés sur Patreon, tout ça. Enfin, je vous ouvre mes livres. Bon, pas complètement en détail, hein. Mais ça, c'est les éditos rien que pour ces trois semaines. Il y en a plein qui sont en cours. Donc, vous aurez ces contenus bonus aussi, mais surtout, en plus des flux sans pub et des timecodes et tout ça, surtout le plaisir d'être patriote et de soutenir cette émission qui nous amènera vers le glorieux patrixme dans quelques temps, à un moment. Et merci à Nolan sur Twitch également. Patrick 2022. C'est un petit peu. J'ai encore le temps d'avoir les 500 signatures ou pas ?
Ouais, si, tu peux. Déjà, okay. Là, dans la chatroom, on est 100, on te fait 100 signatures.
Dans la chatroom, il y a combien de mères, là ? Dites-nous.
Ouais, dites-nous combien de mères il y a dans la chatroom, comme ça, j'évalue ma capacité à me présenter pour cette élection. En même temps, vu l'offre existante, je crois que j'aurais mes chances. Hein. Patrixme, ma doctrine est peut-être un petit peu radicale. C'est Patrick qui choisit pour tout. J'aurais peu de temps, donc...
Ouais, mais les gens ont besoin de cette poigne, un peu d'autoritarisme, voilà, Patrick reprend.
Pas de l'autoritarisme, un peu d'autorité, simplement. Vous savez à quoi...
Exactement.
Tu vois, il n'y a pas de fouet, ah, mais faut mettre les masques, faut pas mettre les masques, machin. Non, moi, je dis, oui, faut mettre les masques, voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas de débat.
Voilà, on peut se consacrer à autre chose, non, comme par exemple...
Au moins, tu fais ce que tu dis, tu vois. Ça, c'est
ça. Voilà. Vous pouvez ne pas porter le masque, mais vous le faites.
Voilà. Vous pourriez, si vous voulez. Mais en fait,
dans un autre univers, vous pourriez. Mais
vous avez le droit d'être contre le port du masque, mais vous le portez.
Voilà, exactement. Très bien. Vous pourrez être des ministres du patrixme tous les deux. C'est très bien.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on couvre le reste de l'actualité tout de suite. Le reste de l'actualité, c'est d'abord une petite mention pour dire qu'il y a eu un rachat absolument monumental dans le domaine du jeu vidéo. Un gros éditeur a racheté une société, ou plutôt un vraiment, c'est plutôt un jeu qui a fait énormément de bruit récemment. Je parle évidemment de New York Times qui rachète Wordle. Les gens qui connaissent le jeu vidéo pensaient qu'on parlerait de Sony qui a racheté Bungie. Ça, on en parlera dans le rendez-vous jeu dans 2 jours à peine. Prévoir ce dont on va parler dans le rendez-vous jeu le jeudi, quand je fais le programme le lundi, pour le poster sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est pas facile, hein. Surtout quand il se passe ce genre de choses. Mais plus sérieusement, je trouve ça hyper intéressant, le New York Times qui rachète Wordle. Alors Wordle, on ne le représente pas. Wordle, clairement, c'est un truc dont tout le monde a entendu parler, ce petit jeu de mots où on a un mot à trouver par jour et on poste sur Twitter ou peut-être même ailleurs les résultats avec ces petits graphismes avec des carrés colorés. Ah, le New York Times, c'est ça, ouais. Bon, toi, tu as eu un enfant, t'es excusé, tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais le New York Times l'a racheté pour, alors on n'a pas les chiffres précis, mais c'est 7 chiffres, donc quelques millions sans doute. Et c'est un jeu qui était proposé gratuitement, développé par, comment il s'appelle, Wordle, quelque chose Wordle, qu'il avait développé juste pour s'amuser et qui a pris d'assaut l'ensemble de Twitter et des réseaux sociaux. C'est un petit peu un motus, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, il sera désormais sur le New York Times et sur le site du New York Times. Et je trouve que c'est un super bon move de la part du New York Times. C'est vraiment un rachat hyper malin.
Bah, c'est très logique. En plus, les mots croisés ont toujours été un truc très important. En tout cas, les jeux, voilà, pour nos grands-parents, la page des jeux dans les journaux papier, c'est traditionnel. Et ça a toujours été un argument de vente hyper important, hein, pour les journaux. Donc, finalement, ils renouent avec la tradition.
Ils renouent avec la tradition et de manière très... très intelligente pour l'ère du web, parce que bon, les mots croisés, tu dis, c'est un petit peu vieux. Mais Wordle, c'est des gens de tous âges, je crois, qui y jouent, qui l'apprécient beaucoup et qui continuent à y jouer depuis plusieurs semaines. Je ne pense pas que ça va disparaître, surtout qu'il n'y en a qu'un seul par jour et qu'on peut se comparer, etc. Et donc, le fait de dire, bah, vous venez sur le site du New York Times, et puis après, il sera bien sûr très facile d'aller regarder les news ou les infos. Enfin, vraiment, c'est la transposition, mais moderne, des mots croisés de l'époque, de manière intelligente et qui synergise avec ce qu'ils ont à offrir par ailleurs, quoi. Je trouve.
Oui. Et en fait, c'est la transformation numérique qui touche les mots croisés, quoi. C'est vraiment
ouais,
ça.
Exactement.
À l'ère
exactement.
De la tablette, bah voilà.
Tout à fait. Autre sujet, c'est des nouveautés chez Apple, du côté d'iPadOS et macOS, et du côté d'iOS également. Ce sont les bêtas des nouveaux systèmes d'exploitation qui proposent d'une part Universal Control, vous savez, cette fonctionnalité qui avait été annoncée avec les nouvelles versions des OS l'année dernière et qui se faisait attendre, qui permet de contrôler un iPad ou un Mac avec les claviers et souris de l'un ou de l'autre, et inversement, et qui a été enfin implémenté et qui fonctionne très très bien. C'est une fonctionnalité qui existait avec des outils tiers. Je me souviens que je contrôlais à l'époque mon Mac et mon PC avec le même clavier grâce à un outil logiciel. Mais donc ça, c'est enfin implémenté, c'est très simple à utiliser. Et puis il y a aussi le fait d'utiliser Face ID sur iPhone quand on porte un masque. Pendant qu'on porte un masque, c'était déjà possible quand on avait une montre, une Apple Watch, et maintenant c'est possible, mais uniquement si je ne me trompe pas sur iPhone 12 et 13, simplement avec un masque de contrôler, enfin de mettre en place un Face ID moins sécurisé, mais qui fonctionne avec un masque. Je pense qu'on va porter des masques régulièrement, donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir cette option. Jérôme, justement, tu nous disais que je voyais que tu as fait une vidéo sur le sujet.
Oui, une demi-heure avant le rendez-vous tech, j'ai sorti une vidéo sur le sujet, donc j'ai testé les deux fonctions. À préciser sur Universal Control, et ça peut en intéresser certains, ça marche aussi entre deux Macs.
Ouais.
Tu peux contrôler ton deuxième Mac avec le premier Mac, ce qui peut être intéressant, par exemple, si tu as un Mac mini qui te sert à faire des renders vidéo et un MacBook Air pour... voilà, il y a des possibilités qui sont intéressantes. Pour alors, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose qu'avec l'Apple Watch pour le masque. L'Apple Watch était très peu sécurisé, le système qu'avait mis Apple, et ne permettait que de déverrouiller son iPhone. Mais tu n'avais pas accès, par exemple, à tes mots de passe ou à ton compte bancaire sans enlever le masque. Donc, c'était assez limité, hein, le déverrouillage par Apple Watch. Là, on a quand même un vrai Face ID qui marche avec le masque. Donc, ça marchera sur votre compte bancaire, sur vos mots de passe, etc. Il est effectivement un petit peu moins sécurisé, mais il marche plutôt bien avec deux réserves par rapport à ça. Comme il se concentre sur le pourtour des yeux, vous ne pouvez plus mettre de lunettes de soleil si vous portez un masque. Et si vous avez de la buée dans les lunettes, ça ne marche pas non plus.
Aïe, damn dead.
Ouais, okay. Je ne sais pas tu as vu, il y a quand même une nouvelle option aussi dans Face ID pour les gens qui ont des lunettes. Tu peux enregistrer aussi une face avec lunettes.
Alors, en fait, c'est pas ça. C'est que quand tu enregistres ton Face ID avec masque, tu le fais sans masque. Mais comme il va se concentrer sur le pourtour de tes yeux, il a besoin d'un scan sans lunettes et d'un scan avec lunettes. Et il te demande, pour affiner le truc, si tu portes plusieurs paires de lunettes, de scanner chacune de tes paires de lunettes pour qu'il puisse te reconnaître avec un masque, en fait.
D'accord.
Mais ils ont pris le problème à l'envers, en fait.
Ouais. Même dans ce cadre, si tu as de la buée sur les lunettes parce que tu étais dehors et que tu viens de rentrer, ça marche pas, d'accord.
Ça marche pas parce que justement, ils se concentrent sur le pourtour des yeux. Moi, il y a un truc que je trouve qu'ils auraient dû faire, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Ils gardent l'ancien système qui utilise toute ta tête, plus ce système. Mais il n'y a pas de switch automatique entre les deux. C'est-à-dire que ton iPhone n'arrive pas à détecter si tu as un masque ou pas.
Ah, mais donc, tu fais comment alors? Tu dois choisir Face ID normal ou Face ID avec masque?
Exactement. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est un peu dommage.
Ouais. D'accord.
Parce que du coup, tu es obligé de diminuer un petit peu la sécurité de Face ID pour porter des masques. Bon, après, tu le fais manuellement d'un petit switch, hein, de passer d'un système à l'autre. Il faut juste rescanner son visage. C'est pour ça que ce n'est pas complètement abouti, à mon avis.
D'accord. Bon, mais c'est quand même
pratique. Et l'autre gros problème, et qui fait beaucoup de polémiques, c'est qu'effectivement, Apple dit on a mis des meilleurs capteurs dans l'iPhone 12 et 13, donc ça sera que pour ces smartphones-là. Donc tout le monde dit oui, c'est de l'incitation à acheter les nouveaux iPhones. Apple n'a pas encore dit formellement que la fonction ne serait pas sur les autres iPhones avec Face ID. Mais ouais, je vois quand même le convenir.
C'est d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet que je voulais évoquer un peu plus tard, mais il y a un éditorial de Aaron Gordon sur justement des questions renouvellement un petit peu forcé slash pas très agréable à propos du Pixel 3. Et il nous a rappelé que jusqu'au Pixel 6 qui est sorti maintenant, là, il y a quelques mois, Google ne donnait de mise à jour de sécurité que pendant 3 ans. Et donc, son Pixel 3 qui est sorti il y a 3 ans, il ne peut plus l'utiliser parce qu'il n'a de mise à jour de sécurité que pendant 3 ans. Et utiliser un téléphone sans mise à jour de sécurité, c'est vraiment pas très intelligent. En moyenne, du côté des iPhones, on est à 6 ans, je crois, de soutien avec mise à jour de sécurité. Et Google, comme je le disais, avec le Pixel 6, est passé à 5 ans. Mais ce que je retiens, en fait, surtout, c'est que les 3 ans, c'était standard à l'époque de la sortie du Pixel 3 pour Google. Et ça n'a fait tiquer personne. On se disait, 3 ans, c'est quand même pas trop mal, ok. Et j'ai l'impression que notre perception de la chose a un petit peu shifté depuis, et que maintenant, on se dit, mais 3 ans, attends, tu te fous de ma gueule. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, je dois jeter mon téléphone. J'ai littéralement vraiment pas intérêt à l'utiliser. Et pour le coup, moi, je vais parler pour moi, hein, pour me jeter la première pierre. J'avais pas du tout tiqué à l'époque. Et l'année dernière, c'était encore 3 ans. Mais aujourd'hui, quand je le considère avec un petit peu de sérieux, je me dis, je sais pas, il faut au minimum 5 ans. Minimum 5 ans de soutien, quoi. Donc.
Non, mais c'est clair. Là, le marché a complètement changé. Notre perception du marché a complètement changé. Mais aujourd'hui, c'est inadmissible, surtout de la part de Google.
Ouais.
D'avoir là pour le coup, on peut vraiment parler d'obsolescence programmée, comme tu dis. Et moi, l'iPhone 3, je le connais, le Pixel 3, je le connais bien. C'est celui que j'avais en téléphone personnel. Et le fait, effectivement, et il marche encore très bien. La batterie tient encore le coup. Là, ça fout vraiment la haine, quoi, quand même.
Ouais, je crois qu'on est assez d'accord. Oui. Parce qu'encore une fois,
c'est scandaleux. Hein.
Ouais. Les mises à jour de sécurité, c'est pas juste « Ah, bah, vaut mieux pas l'utiliser ». Si vous avez un téléphone dont il n'y a plus des mises à jour de sécurité, faut pas. Ouais. Surtout sur Android, qui est un système d'exploitation un petit peu hétéroclite et qui est très répandu. On va dire que je fais du favoritisme avec Apple, mais un téléphone Apple qui est plus mis à jour parce que son OS est trop vieux, généralement l'écosystème Apple, ils progressent tous aux nouvelles versions de l'OS très rapidement. Genre on a, je sais pas, 90% d'adoption au bout de 6 mois. Et donc pour les malfaiteurs, il est très peu intéressant, très peu avantageux de chercher des failles sur des anciennes versions de l'OS parce que très peu d'appareils l'utilisent. Alors que sur Android, il y a plein d'appareils qui utilisent toutes les versions de l'OS. Donc c'est un petit peu différent. Et même des versions un peu plus anciennes. Mais bon.
Les mises à jour de sécurité, c'est exactement comme manger un yaourt périmé. Au bout de 2-3 jours, tu ne cours pas beaucoup de risques. Au bout de 2 mois, là, quand même.
On peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de cette histoire de Spotify et Joe Rogan ? Est-ce que, j'imagine que vous avez suivi cette histoire de podcast problématique pour Spotify ?
Bah, alors, moi, j'ai appris, et ça, les gens ne le savent pas, que Dorothée a décidé de retirer ses chansons sur Spotify France tant que Patrick Béja, qui est le Joe Rogan français, sera hébergé par Spotify.
Ah là là, quel
moi, je décide de plus regarder de vidéos sur YouTube tant que Didier Raoul poste ses vidéos sur YouTube.
Exactement. Voilà. Et je ne veux plus regarder la télé depuis.
Et d'ailleurs, tu l'as pas annoncé, mais Naotech aussi retire toutes ses vidéos de YouTube tant que Didier Raoul.
Mais on rigole, c'est ça le problème. Alors, je vais expliquer quand même pour les gens qui savent pas de quoi il s'agit ni qui est Joe Rogan. Joe Rogan est le podcasteur le plus populaire au monde, selon les estimations un petit peu bruit de couloir. Il a 11 millions de. Alors, je sais plus si c'est d'abonnés ou d'écoutes par mois. Ça change un petit peu les choses, mais c'est monumental. Ah,
il a deux de plus que toi, quoi. C'est tout.
Et ça compte. Quand tu comptes en millions, 2 millions de plus, ça fait beaucoup.
Deux
abonnés de plus, ok.
Ouais.
Si vous voulez comparer vraiment des choses intéressantes, il a... attendez, il faut que je retrouve les données. Je les retrouve plus, c'est pas grave. Mais il a genre 11 millions d'écoutes, là où d'autres podcasts de grosses chaînes américaines sont à 2 millions, 3 millions. Enfin, vraiment, c'est un podcasteur hyper important. L'autre élément important de cette discussion, c'est que Spotify a acheté l'exclusivité des droits de distribution du podcast de Joe Rogan pour 100 millions de dollars il y a quelques années. Donc, ce n'est pas qu'ils possèdent le podcast, mais ils en ont quand même l'exclusivité des droits de diffusion, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver le podcast que sur Spotify. À côté de ça, Joe Rogan, c'est une personnalité un petit peu particulière. C'est un ancien commentateur, peut-être même ancien catcheur lui-même, commentateur de catch. Et dans son podcast, c'est des discussions un petit peu candides. Mais il est dans la mouvance, je vais expliquer ce qui s'est passé exactement. En fait, il reçoit des gens de différents domaines et de tous bords avec lesquels il va avoir des discussions ouvertes et assez candides. Il a reçu des autorités du domaine médical qui sont très controversées. Et notamment, certaines personnes qui disent que les vaccins ne sont pas efficaces, il a fait en gros une grosse dose de désinformation sur la pandémie, notamment avec les docteurs Peter McCullough et Robert Malone, qui sont des gens, alors je crois que c'est Malone, qui prétend avoir inventé le vaccin mRNA, ARN messager, et qui dit qu'ils ne sont pas efficaces et qu'ils ne servent à rien. Donc, on est vraiment dans le cœur de la désinformation. Et Joe Rogan, lui, il a, avec raison, il dit « Ah ben moi, je discute avec plein de gens, je discute avec des officiels du gouvernement, des officiels de machin, des gens qui sont très sérieux. » Et il se justifie avec cet artifice intellectuel un petit peu qui est de dire « Mais je veux avoir les opinions de tout le monde. Je veux, je veux écouter tout le monde et je veux pouvoir me faire mon avis et écouter des opinions différentes. » Et le genre d'argument qui est tout à fait cohérent quand on parle de sujets sur lesquels il y a des doutes qui sont permis, mais quand on parle de choses bien établies, quand on va dire par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais je veux écouter les gens qui nous expliquent pourquoi la Terre est plate, à un moment, les présenter avec un pied d'égalité avec des théories scientifiques prouvées, bah, c'est pousser de la désinformation un petit peu volontairement. Et le problème, c'est qu'il est extrêmement populaire, comme je venais de le mentionner, et il est également en particulier très populaire chez les jeunes hommes qui sont dans cette mouvance-là. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps de ce truc spécifique, parce que la vraie question, c'est que suite à ces podcasts-là, il y a eu une levée de bouclier. On avait mentionné, je crois, la semaine dernière, une lettre ouverte à Spotify qui leur demandait de réguler les choses. Et Neil Young et d'autres artistes ont décidé de retirer leur musique de Spotify parce qu'ils poussent cette désinformation en étant les distributeurs de ce podcast-là. Neil Young a eu la polio quand il était petit. Il a grandi à une époque où le vaccin contre la polio n'existait pas. Donc, il est très préoccupé par ce genre de choses. À une époque où on comprenait pourquoi certaines maladies, il n'y avait pas de doute, quoi. Quand le vaccin pour la polio est arrivé, les gens comprenaient tellement ce que c'était que la polio que personne disait non, je ne veux pas de vaccin. Enfin, bref. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Spotify est responsable du contenu du podcast de Joe Rogan ? Les podcasts controversés, ce n'est pas le premier, celui de Joe Rogan, mais on a vu par exemple Alex Jones, vous savez, InfoWars, à la grande époque de la désinformation de ce type-là, avait été retiré de nombreuses plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est, d'une part, Spotify fait beaucoup d'argent avec le podcast de Joe Rogan, mais est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils doivent le retirer? Ce qu'ils ont dit, c'est, on va mettre des petits labels Covid, désinformation, enfin, pas Covid, désinformation, mais pour vous informer sur le Covid, vous pouvez aller ici et là, ce podcast en parle, donc informez-vous. Joe Rogan lui-même a fait une mise à jour assez candide, là encore, où il dit, oui, je comprends, je suis désolé, moi, je veux juste parler à des gens qui ont des opinions différentes, mais je soutiens l'idée qu'il y ait des labels Covid truc, etc. Donc, je n'ai pas l'impression que ça soit un type qui soit fondamentalement mauvais, mais c'est... Bah, ouais, dis-moi.
Moi, il y a un truc, j'ai commencé à le formaliser hier dans ma tête, mais je trouve que ce débat que la liberté d'expression sur tous les sujets et tout. Aujourd'hui, si on considère que l'OMS, je ne parle même pas des gouvernements et des applications, des lois des gouvernements, je parle de l'OMS. Si on considère que on a une situation, une pandémie, l'OMS, c'est des pompiers. Est-ce qu'on doit avoir la liberté d'expression lors de l'évacuation d'un immeuble en feu, c'est-à-dire l'OMS qui nous dit il faut prendre les escaliers de secours à droite? Est-ce que c'est le moment pour des gens comme Joe Rogan de dire attendez, il faut qu'on ait un débat sur quels sont les escaliers à prendre. Est-ce que le feu existe vraiment? Le feu, ça brûle, oui ou non? Enfin, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment d'avoir ce type de débat? Mais je vais jusqu'au bout. Après, un pompier est peut-être faillible. Il y a peut-être des mauvais pompiers et peut-être que l'OMS se plante complètement. Mais il vaut peut-être mieux qu'on décide une fois qu'on a évacué et qu'on les traîne au tribunal, une fois qu'on a évacué l'immeuble ou que tout le monde est mort, peut-être dans l'escalier de droite parce que les pompiers se sont trompés. Ce que je veux dire, c'est que dans le débat on a le droit de débattre de tout, oui, mais à quel moment ? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de faire un pare-feu à une pandémie avec des pompiers qui sont l'OMS. Je ne pense pas que ça soit la place d'un débat au moment de l'évacuation de l'immeuble.
D'accord, que fait Spotify ? Est-ce qu'ils doivent supprimer un podcast ? Est-ce que c'est le rôle de Spotify d'aller supprimer le podcast ou de le...
Je pense, je pense que là, Spotify a le bon move. Mmh. On ne doit pas interdire un podcast parce que c'est très difficile d'ériger des règles et de se mettre en censeur, mais qui est un moyen d'informer les gens de ce qu'ils vont écouter et que ce ne sont pas des faits. C'est pas, l'émetteur n'est pas un pompier. Tu vois, ça peut paraître débile parce qu'on les a déjà, hein, ces alertes quand tu vas sur Twitter et ouais, tu cherches sur Covid, YouTube, t'as le petit bandeau, sur... machin. Mais c'est quand même important de différencier la voix du pompier de la voix de tous ceux qui estiment que les pompiers sont pas des vrais pompiers. Mmh. Parce que le problème qu'on a avec les réseaux et les médias aujourd'hui, c'est que ceux qui sont contre les pompiers ou qui disent que c'est des faux pompiers ont autant de puissance d'information. Que, voilà, ils ont le même poids que les pompiers. C'est comme si un pompier te gueulait à travers la fenêtre, partait à droite, et que t'avais un mec à côté du pompier qui fait « Non, 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 c'est à gauche !» Ou et t'as okay, un mec derrière qui te fait « Non, le feu n'existe pas !»
Ok, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Les gens qu'il a invités, c'est des docteurs. Alors, des docteurs qui sont controversés, qui sont décriés, ouais, qui sont tout ce que tu veux. Mais non, mais voilà, mais exactement. Didier Raoult, c'est un docteur. Et qui va décider de quel docteur a raison et quel docteur a tort. Alors, bon, je pense que là...
C'est pour ça que j'ai parlé de l'OMS.
Ouais.
Je veux dire, il y a un moment où on peut remettre tout en cause.
Bah oui.
Bon, il y a l'OMS. Peut-être que l'OMS, c'est des mauvais, j'en sais rien.
Et non, mais du coup, tu veux dire que... Excuse-moi, Jérôme, du coup, tu veux dire qu'on ne peut pas donner la parole à un autre docteur que l'OMS, que les docteurs de l'OMS ?
Pas pendant l'incendie. Pas pendant l'incendie.
Ça fait deux ans qu'il dure l'incendie.
Après.
Okay.
Bah oui, mais quand même, tu vois ce que je veux dire ? Il y a une pandémie qui est déclarée, voilà.
Tu sais, c'est le genre de discours qui me paraît extrêmement logique et cohérent jusqu'à ce qu'on creuse sur les questions d'implémentation. Parce que comment
on implémente
ça ?
Oui, mais il y a des choses qui ne se discutent pas. Enfin, je veux dire, les faits, la santé, la science, enfin,
ouais,
pour moi en tout cas.
Mais bien sûr.
C'est quelque chose
mais...
qui se
ok, alors que doit faire Spotify, Cédric ? Concrètement, hein.
Non, mais là, on parlait de la pandémie. Spotify, j'en sais rien, tu vois. Enfin, si, j'en sais
non,
rien.
Mais c'est...
Si.
Non, on parle de Spotify, on parle pas de la pandémie. Moi, c'est de Spotify
si
que
les
je
médecins,
veux.
Si les médecins qui sont invités dans ce podcast-là ne se basent pas sur des faits scientifiques avérés et des études conduites dans l'état de l'art de la conduite d'études sur la maladie, sur les vaccins, etc., il mérite de dégager ce podcast qui fait de la désinformation. Voilà, c'est tout. Parce que,
ce qui est,
effectivement.
Ce qui est en l'occurrence clairement pas le cas, hein, les choses
non,
qui
mais
étaient.
Je connais un médecin qui continue à dire que c'est Bill Gates qui nous met des trucs dans la tête.
Ouais.
Et ce gars-là ne mériterait même plus d'exercer. Enfin, je veux dire, on a changé de dimension là, tu vois.
Ouais.
Ouais,
mais encore une fois, hors Patrick et Patrick décide tout, où on n'a pas besoin de discuter sur ce qu'a dit Patrick, je ne suis pas convaincu que ça soit aussi facile à implémenter que ce que vous dites. Bon, ceci dit...
Mais c'est très facile, hein, tu le dégages et c'est réglé. Et tu t'assois sur une partie des revenus et il ira faire son podcast ailleurs. Mais en fait, il faudrait tenir aussi... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui meurent. Et moi, je ne plaisante pas avec les gens qui meurent, en fait, bêtement.
Écoute, donc, je suis complètement d'accord, évidemment. Mais c'est le genre d'argument qu'on peut lancer... Je me fais encore un petit peu l'avocat du diable. C'est le genre d'argument qu'on peut lancer sur lequel on peut glisser très, très, très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui meurent, tu peux le dire à propos de plein de choses. Et tu pourrais... S'il y a des gens qui meurent, c'est l'argument qui ferme toute discussion à tout, bah on ne peut plus discuter de rien un petit peu, parce qu'à un moment, il y a des gens qui meurent dans tous les cas de figure, sur tout ce dont on peut parler, presque. C'est... Tu comprends ce que je veux dire ou pas, je veux pas
oui,
te...
bien sûr, bien sûr. Mm. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je veux dire, j'ai des proches qui sont morts, quoi. Enfin,
je comprends bien.
Et donc, je ne peux pas accepter qu'on... Ouais. Et c'est à l'époque où le vaccin n'était pas là, etc. Et je ne peux pas accepter qu'on dise aujourd'hui que la maladie n'existe pas, tu vois, par exemple.
Oui.
C'est quelque chose que je ne peux pas entendre. En
fait. Bah, disons que, clairement, sur Joe Rogan, sur son podcast, ce qu'il disait, c'est le vaccin ne fonctionne pas. Et accessoirement, Joe Rogan, il est plutôt anti-vax et il vend des vitamines qui vous fortifient et qui font que vous avez
c'est
pas besoin de
machin.
C'est là où ça
devient... Le truc, c'est que...
Bah, c'est plus la science.
C'est là où je reviens à mon analogie de pompier. D'être un anti-pompier, anti-feu,
ouais,
et aujourd'hui porteur, et permet de gagner beaucoup d'argent et de notoriété. Mmh. Parce que c'est populaire. Personne n'a envie qu'un immeuble brûle. C'est chiant, surtout pendant 2 ans, quoi. et qu'on a plutôt envie d'entendre des théories satisfaisantes comme tout ça c'est un complot ou tout ça c'est n'importe quoi, parce que c'est, intellectuellement c'est satisfaisant de penser ça, c'est plus facile, parce que la vérité elle est beaucoup plus complexe en fait. Oui, c'est pas un vaccin qui te protège de la maladie. Rien que ça, tu vois, non, pour certains, ils butent là-dessus.
Je suis pas
en train de partir dans un autre
débat.
Ouais,
c'est mais... ça. Le truc, c'est que on va pas. La question n'était pas de faire le débat sur la désinformation sur la pandémie elle-même. La question était Spotify se retrouve dans la situation dans laquelle est Facebook et YouTube par rapport à un podcast. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu différent de ce dont on a discuté jusqu'à maintenant.
D'accord, mais. C'était bien quand même de remettre justement ce que fait Logan dans
Joe
le
Rogan.
Joe Rogan, pas Logan, c'est un autre. C'est dans le même. Bref.
Ouais, mais c'est limite du négationnisme. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, ça rentre dans cette catégorie-là, en fait. C'est tout.
Après, voilà, quand même pour terminer sur est-ce que et là, on revient sur l'exemple qu'a donné Cédric au début. Est-ce que Naotech va quitter YouTube parce que YouTube héberge des vidéos avec lesquelles on n'est pas d'accord? On a eu l'exemple en France avec Tipeee aussi, oui. Hein, avec des créateurs. Tipeee, effectivement, fait des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Mais en même temps, prendre la décision de couper à 100% une grosse partie de son gagne-pain et même gagne-pain essentiel ou 100% pour certains... Et là, on va revenons aussi sur le fait que les deux artistes pour l'instant les plus connus, Neil Young et comment elle s'appelle, la chanteuse canadienne.
Oui, attends, je l'ai ici, Joni Mitchell.
Joni Mitchell. C'est, alors d'abord, historiquement, c'est quand même des chanteurs très à gauche dans le spectre américain. Très engagés à gauche. C'est, comme tu disais, c'est des gens d'une autre époque, sans faire d'agisme, quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui ont surtout gagné beaucoup d'argent à l'époque des disques. Et qui, aujourd'hui, s'ils perdent leur revenu Spotify, c'est une piqûre, mais c'est pas un effondrement. Demander à un artiste plus jeune, qui lui vient de commencer sa carrière, qui marche bien sur Spotify, qui a toute une équipe à payer, hein, parce qu'un artiste se paye pas tout seul, il y a toute l'équipe et tout ça, lui dire... Parce que tu dois avoir une posture morale sur le sujet, tu dois sucrer complètement ton gagne-pain. Je trouve que c'est immoral de demander ça.
Mais pour être clair, personne ne demande. Artistes. Hein. Pour être clair, personne
oui,
ne
enfin,
demande
si,
ça.
Oui, enfin si, Joni Mitchell a dit rejoignez-nous, machin. J'ai envie de dire, c'est facile, cocotte. Je me permets, je respecte Joni Mitchell, mais c'est facile quand t'as déjà un bon pactole.
Bien, elle
exactement, enfoiré.
Ah, tu l'as bien connu au lycée, tu vois, avant.
Ah bah oui, bah. J'étais même son
t'étais
tuteur
aux
de
États-Unis,
stage.
Tu vois, bah voilà, t'es aux États-Unis, tu la connais bien, t'inquiète.
Enfoiré, je l'ai pas volé, celle-là. Je l'ai pas volé. Mais tout ça pour dire, quand t'as de l'argent au chaud, c'est facile de faire la morale aux autres en disant, bah, coupez votre gagne-pain, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ça a tendance à toujours un peu m'énerver.
Je comprends. Bon, écoutez, on va juste conclure avec quelques sujets en plus. D'une part, Twitter est en train de tester un Twitter privé. En gros, on pourrait avoir 150 amis proches et on ne tweeterait qu'à eux quand on tweete. C'est une idée qui me paraît intéressante. Et il y a Hank Green et MrBeast
Ça s'appelle un groupe WhatsApp, quoi, en fait.
C'est un peu ça, ouais, voilà.
Okay, à deux doigts d'inventer les groupes WhatsApp.
mais l'idée de pouvoir tweeter à un groupe un petit peu plus, et puis c'est asymétrique, tu vois, toi les gens qui sont dans ton groupe sont pas forcément ceux qui sont dans les groupes des autres, donc tu vois c'est un petit peu différent quand même.
Ouais, un peu.
Et puis à propos de TikTok, il y a Hank Green qui est un YouTuber, notamment le créateur avec son frère de Crash Course, une chaîne YouTube absolument formidable que j'adore, qui a parlé du problème de du soutien des créateurs par TikTok et qui a relevé des choses hyper intéressantes. En fait, il y a deux problèmes essentiels avec la manière dont TikTok rémunère ses créateurs. Le premier, c'est que le fonds de soutien de TikTok est limité. Alors, il est gros, il est passé à combien ? 200 millions, quelque chose comme ça, mais il est fini. Et donc, plus il y a de créateurs, plus il y a d'argent qui part vers les créateurs, mais moins par créateur. Donc, les créateurs gagnent de moins en moins.
Il faut le partager.
Voilà. Exactement. Alors peut-être qu'ils augmenteront la taille du gâteau, mais aussi il y a un autre problème, c'est que contrairement à YouTube où une pub est associée à une vidéo, eh bien sur TikTok, les pubs passent entre les vidéos. Et donc, elles sont complètement décorrélées des vidéos et donc il est difficile de savoir ou de, même de forcer des revenus qui sont en adéquation avec l'impact que tu as sur TikTok. D'ailleurs, c'est MrBeast, qui est le plus gros YouTuber de l'histoire maintenant, qui avait partagé ses revenus sur TikTok. Il fait des milliards de vues sur TikTok et il a gagné 15 000 dollars pour des milliards de vues. j'ai trouvé cette réflexion de Hank Green hyper intéressante.
Soit ils ont le compteur qui est complètement éclaté, et en fait, ce n'est pas des milliards, mais en gros, c'est des milliards de débuts de lecture sur TikTok, mais pas visionnés en entier, donc voilà. Et donc, forcément, il faut pondérer. Mais clairement, ça ne représente rien du tout, en fait.
Ouais. Voilà. Oui, oui, et c'est un problème, on le sait, on a déjà vu le cas avec Vine et d'autres. Avoir du succès en tant que réseau social, quand tu plais aux jeunes, c'est facile. Mais après, garder les créateurs, surtout que maintenant, bah voilà, la création de contenu, c'est clairement un business. Et des mecs comme MrBeast, c'est des capitaines d'entreprise et d'empire, même maintenant. Oui. Tu ne vas pas les maintenir longtemps. Hein. C'est clairement... En fait, tu prêtes le flanc à la concurrence en faisant ça. Demain, il y a un TikTok-like qui se lance, qui rémunère ne serait-ce que deux fois mieux les créateurs. Ça va se vider et Vine s'est vidé très vite aussi. Oui. Donc, il ne faut pas croire que parce que TikTok a énormément de succès en ce moment, parce que c'est à la mode, c'est encore un autre colosse au pied d'argile. Hein.
Ouais, moi, je dirais qu'ils peuvent facilement corriger le problème en rémunérant plus, tu vois. Ils peuvent quintupler le... Ouais. Ou attribuer un montant à chaque vue, tout simplement signer des contrats avec les créateurs pour leur...
Surtout qu'en fait, ils dépensent énormément d'argent dans des leviers de croissance. Ils font beaucoup de pubs, TikTok. Alors que, est-ce que vraiment TikTok a besoin de pubs ? Je ne sais pas. Peut-être, sans doute. Hein, s'ils la font, c'est que ça doit servir. Mais au bord des terrains de foot, etc. Enfin, et ça coûte une blinde, en fait, de faire ça.
À mon avis, ils n'ont pas besoin. Il n'y a pas de question à se poser sur le fait qu'ils ont de l'argent à dépenser s'ils veulent augmenter le fond.
Mais il y a un truc. Et il ne faut jamais oublier le marché publicitaire. À chaque fois, on fait l'erreur. Un réseau comme TikTok a énormément de succès parce que les jeunes l'adulent. Les jeunes n'ont pas d'argent, n'intéressent pas les publicitaires. Donc TikTok se retrouve toujours dans la spirale infernale. Oui, oui. Quand tu es un réseau social, il faut attirer les vieux. Parce que c'est les vieux qui intéressent les publicitaires, en règle générale. Et tu vois, on a fait l'erreur avec Facebook de dire plus personne s'y intéresse parce que les jeunes
fuient. Ouais, mais il y a Zemmour en même temps, sur TikTok et Mélenchon, ça attire les vieux.
En même temps, l'espace publicitaire sur Facebook coûte beaucoup plus cher maintenant, rapporte beaucoup plus d'argent. Et YouTube, ouais, c'est pareil.
Parce qu'ils connaissent la couleur de ton slip en détail ou ta lunette et combien de pas t'as fait dans la journée, tu vois.
C'est le même problème entre YouTube et Twitch. Oui. Certes, Twitch est plus moderne et plus jeune que YouTube. YouTube est en train de devenir la maison de retraite des vidéos. Mais en même temps, les pubs YouTube rapportent enfin pas mal d'argent parce que les publicitaires commençaient à s'intéresser, parce que les plus de 25 ans sont sur YouTube aujourd'hui.
On revient à la question.
C'est là où TikTok a besoin de faire de la pub, c'est qu'ils doivent attirer les vieux. Et quand je parle de vieux, c'est des plus de 20 ans. Hein.
Écoute, on en parlera à Johnny Mitchell.
Voilà, exactement. Est-ce que Johnny Mitchell est sur TikTok?
Bah, appelle-la.
Non, elle ne peut plus répondre, elle n'entend pas.
Ah, on a un autre sujet qui m'avait paru intéressant. Le poids énergétique du numérique en France. Il y a une enquête de, que je ne dise pas de bêtises, voilà, c'est un rapport de l'ARCEP et de l'ADEME qui vient de sortir et qui détaille le poids des différentes industries sur l'empreinte carbone du pays. On se pose souvent la question, en fait. Et il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut envoyer moins de mails, regarder nos vidéos YouTube en moins bonne définition pour que ça pèse moins de poids, etc. Bon, un rapport officiel sérieux, avec des recherches sérieuses, fiables, sur le poids du numérique. Le numérique représente aujourd'hui 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Pour comparer, On a le transport qui représente 31%, manufacture 18%, l'agriculture 19%. Et donc, déjà, à la base, les 2,5%, c'est pas grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi faire des efforts sur le numérique comme il faut faire des efforts sur tout, évidemment. Mais quand les 2,5%, on est d'accord que c'est quand même beaucoup moins que d'autres grands domaines industriels qu'on a parfois pointé du doigt de manière à peu près équivalente. Surtout que dans cette empreinte de 2,5%, ce sont les matériels, les terminaux, et surtout les écrans et les télévisions qui consomment énormément et qui représentent 65 à 90% de la consommation. Donc, sur ces 2,5%, surtout les écrans eux-mêmes, et ça veut dire, en fait, que l'un des problèmes dans le numérique, c'est pas tant la consommation de contenu que le rachat de matériel. Si on veut se poser la question dans ce domaine. Mais, quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera tous d'accord que 2,5%, c'est pas quelque chose de complètement négligeable qu'il faut oublier, mais on a au moins la réponse et on se posait vraiment la question, même jusqu'à encore l'épisode précédent, est-ce que le numérique est vraiment un poids sur lequel... Parce qu'on sait pas, on a beau vouloir savoir, machin, il y a des choses, jusqu'à ce qu'on étudie vraiment la chose avec sérieux, bah on sait pas. Là, on a une réponse qui est un petit peu fiable. 2,5%, contre 20-30% pour d'autres domaines. Après, on fait de cette information ce qu'on veut. Moi, ma conclusion, c'est il vaut mieux envoyer un mail que manger un hamburger. C'est pas comparable.
Ça dépend, est-ce que c'est un hamburger végétarien ou pas,
quoi. Ah bah là, c'est un peu... Oui, c'est un peu mieux. Mais je pense quand même que, okay, végétarien ou pas, envoyer un mail, ça consomme moins de...
Ça nourrit pas beaucoup quand même, envoyer des mails.
Tu n'as pas tort. Du coup,
si je commande sur Uber Eats... Il vaut mieux que je passe la commande, mais que je ne le reçoive pas, en fait.
Ah, exactement. Très bien. Tu as trouvé la solution.
Ok, parfait. Bah, je mangerai des Airburgers à midi, alors.
Airburger, une nouvelle tendance tech extrêmement lucrative. On demande dans le chatroom, la fabrication de ces appareils est comprise dans les 2,5%. D'après ce que je comprends, oui. Et c'est pour ça qu'on parle des terminaux qui représentent une grosse partie. C'est parce que les appareils eux-mêmes et leur fabrication représentent une grosse, grosse partie de la consommation des... De l'industrie, en fait.
Oui, c'est ça.
Alors, mais je crois qu'on arrive au bout. Tiens, il y avait une question quand même que je voulais poser aux créateurs de contenu avant qu'on ne se quitte. On a des NFT de partout, hein, Alphabet... Ouais, vous voyez, on dit Alphabet. Google travaille à la recherche de ce qu'on pourrait faire avec la blockchain. Reddit est en train de regarder des petits tests avec les NFT, machin. Et Suzanne Wojcicki, je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom, qui est la présidente de YouTube, a dit qu'ils étaient aussi en train d'étudier la possibilité d'intégrer les NFT pour soutenir les créateurs. Un autre moyen pour les créateurs de créer des revenus. Et comme vous êtes tous les deux créateurs de contenu, je me demandais ce que vous en pensiez, vous. Si on vous donnait la possibilité avec des NFT, et bon, mettons de côté la question énergétique, hein, qui est toujours problématique dans ce domaine, mais il existe des versions de blockchain qui sont très largement moins consommatrices d'énergie. Donc, si on pose juste la question des NFT comme option pour monétiser votre activité et donner l'opportunité à votre audience d'acheter des choses numériques pour vous soutenir, est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout?
Vas-y, Cédric. Vas-y, Cédric.
Ouais, parce que j'y ai pensé, moi, en fait, à cette question-là. Et en fait, ça rejoint finalement la news juste avant sur l'empreinte carbone de la fabrication d'objets, etc. En gros, la question... Alors, le problème du NFT, c'est la pollution sur le long terme, en fait. C'est surtout ça, mais... moi, ce qui m'embête aujourd'hui avec les NFT et les différentes blockchains de manière globale, c'est cette consommation énergétique, y compris de composants, parce qu'on parle d'énergie, mais les cartes graphiques qui tournent pour miner des cryptos, etc. Enfin, je veux dire, c'est aussi des machines qu'on produit. Et c'est surtout.
On mais c'est pour ça que je disais si on met de côté la question énergétique, parce que.
Ah, si on met de côté de ça, moi j'ai rien contre de vendre un NFT de l'épisode 100 de Geek Inc. ou ce genre de truc, ouais, il n'y a pas de souci.
Parce que ça, juste pour être clair, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'au niveau énergétique, il y a un problème avec la blockchain.
Et c'est pour ça que je ne le ferai pas, en fait. Tu vois, c'est vraiment. Parce que vendre un mug qui vient de Chine avec le logo, c'est pareil, en fait. Je veux dire, tu vois, tu te peux te
poser la question pire,
de... Ouais, mais...
Faire
ouais.
Des goodies physiques avec l'envoi... Non, mais avec l'envoi du produit, la fabrication du produit...
Bien sûr.
Mais justement...
Non, si on élimine ça, moi, je ne serais pas contre. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que je ne le ferai pas, en fait.
Le problème aujourd'hui des NFT, c'est qu'il y a un doux mélange entre les excès des NFT, comme les excès du marché de l'art ou quoi que ce soit, et les NFT eux-mêmes. Moi, ce que je vois pour les créateurs de contenu, pour revenir à ta question par rapport à YouTube et nos vidéos, aujourd'hui, et toi, c'est pareil, Patrick, Cédric, on demande aux gens de contribuer, en fait, à notre création de contenu. Parce que c'est le positionnement qu'on a avec nos chaînes, à plus ou moins moindre mesure, mais on demande à la contribution. Aujourd'hui, on a la contribution où les gens nous donnent de l'argent pour qu'on produise des vidéos avec des petites, on va dire, contreparties cosmétiques. Et d'un autre côté, il y a un système beaucoup plus extrême, ça serait de vendre des actions de nos sociétés, si on a des sociétés, à des gens pour nous aider. Les NFT pourraient permettre de faire un système intermédiaire. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, ça pourrait permettre de donner aux contributeurs un certificat qu'ils ont contribué, un certificat collectible, qui peut avoir une certaine valeur. Moi, j'y pense, par exemple, tu vois, nous, on voudrait lancer des reportages qui demandent beaucoup d'investissements en amont, parce qu'il faudrait une équipe, etc. On vend des morceaux de ce reportage. Alors, on va me dire, mais on pouvait le faire avant. Oui, mais là, tu aurais un morceau quantifié, en gros, et certifié par la blockchain, de ce reportage. Qui, imaginons que ce reportage, les scandales des podcasts de Patrick Béja, et un succès international, devienne un collector, et justement... Je parle même pas de valeur monétaire, mais une valeur presque sentimentale. Ouais. Tu leur donnes quelque chose de tangible, et si justement le truc a beaucoup de succès, on a quelque chose qui est intermédiaire entre une action et une contribution où t'as rien, tu vois. Donc en ça, les NFT pourraient être intéressants. Le truc, c'est que si elles les lancent maintenant, il y a un tel mauvais buzz autour des NFT dans le jeu vidéo, dans on entend enfin NFT bientôt les rognures d'ongles vont avoir des NFT. C'est on est dans le NFT frenzy où c'est tout et n'importe quoi et tout ce qui ressort parce qu'il faut pas oublier un truc, tous les articles sur les NFT font du clic en ce moment parce que les gens adorent s'offusquer. Ouais. Donc on est en plein dans la vague offusquons-nous des NFT, c'est ça la mode. En fait, je serais les NFT. Je changerai de nom. Il faut changer de nom. Il faut faire comme Meta. Arrêtons d'appeler ça. En plus, les non-fungible, je ne sais pas trop quoi, ça fait trop cabalistique. Il faut trouver un autre nom. Il faut trouver un autre nom. Les NFT, revenir par la petite porte.
Les stonks.
Choisis bien
ta blockchain. Il y en a qui sont pas dangereuses pour l'environnement, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y en a qui existent, qui sont pas du tout aussi problématiques que les crypto-monnaies en général et les blockchains en général aussi. Donc, écoutez, je crois que ça va être notre dernière réflexion du jour. La dernière news que je vous donne vraiment juste en passant, c'est un truc qui n'est pas super tech, mais c'est quand même genre de la recherche. Donc, on va dire que oui, c'est juste enthousiasmant. Patrick, des années 80, n'arrive même pas à y croire, ou plutôt des années 90, parce que j'étais encore un peu trop jeune en 80. Encore que, vous avez peut-être déjà vu passer la news, on a commencé... Moderna a commencé à tester son vaccin ARN messager contre le VIH. Et c'est tellement inimaginable pour quelqu'un comme moi qui a grandi à une époque où le sida était vraiment le... Enfin, je vais pas comparer de maladies différentes, mais il y avait... Enfin, c'était tellement... inescapables, on pouvait pas s'échapper, on pouvait pas, enfin il y avait, c'était une épidémie
c'est
absolument...
la mort certaine. Hein.
Ouais, mais c'est plus que ça. On savait pas au début, on savait pas d'où ça venait, on savait pas ce que c'était, et puis c'était la condamnation à mort effectivement. Et puis bon, on a commencé à trouver des moyens de pallier à la maladie, mais aujourd'hui, le fait qu'il y aura un vaccin, enfin qu'il commence les tests sur un vaccin, et le pire, c'est que, enfin le pire, la suite de ces recherches sur les je veux pas dire de bêtises, mais sur les vaccins à ARN messager, ont même des applications sur le cancer potentiellement et sur ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses dont on peut se plaindre, mais il y a aussi des choses assez incroyables. L'idée qu'on puisse vacciner contre le sida, c'est tellement... ça vient de l'espace que je voulais le mentionner dans l'émission, même si ce n'est pas strictement parlé de la tech.
Mais Patrick, le sida a-t-il vraiment existé ? Est-ce que ce n'est pas un complot de Big Pharma quand même ? Moi, j'ai envie de poser la question.
Écoute, Joe...
Laissez-moi m'exprimer.
Écoute, Jérôme, on n'a pas eu les 100 millions de Spotify encore, donc on ne peut pas vraiment se permettre ça. Tu vois, nous, ils peuvent nous retirer de Apple Podcast, Spotify, partout, sans que ça leur change quoi que ce soit pour leurs revenus. On fera ce genre de controverse quand ils nous auront payé et qu'ils auront investi beaucoup. Donc,
oui, mais j'ai ici ma petite sœur, Johnny Mitchell, pour témoigner, hein, justement.
Bon, bref, vaccin contre le sida en test, c'est assez enthousiasmant. Et ce qui est, alors, pas enthousiasmant du tout, c'est que malheureusement, cette émission arrive à son terme et nous devons donc vous dire au revoir. Mais,
c'est sûr.
Mais ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on peut vous retrouver ailleurs sur Internet si on en veut un petit peu plus. Alors, Jérôme, c'est sûr. Cédric, je ne sais pas si tu es très actif sur le net.
Un peu moins en ce moment, mais oui, je reviens petit à petit.
Alors, dis-nous tout.
Bon, le plus simple, c'est de suivre sur Twitter. Cédric Deluca avec le chiffre 2 pour Deluca. Et pas de S à la fin. Voilà.
Eh bien, le compte sera sur dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Cédric. Jérôme, où es-tu ?
Il y a du changement. Il y a du changement. Je l'annonce ici en exclusivité.
Oh mon Dieu, tu quittes YouTube.
On va s'appeler Maintenant Tech. Non, je plaisante. la chaîne YouTube, ça ne change pas. C'est toujours Naotech. Mais par contre, on a enfin harmonisé tous les réseaux sociaux. On a le même nom partout ailleurs. Et par exemple, sur Twitch, c'est Naotech Team. Sur Twitter, c'est Naotech Team. Sur Instagram, c'est Naotech Team. Et sur Facebook, parce qu'on s'est fait hacker notre compte, maintenant, c'est Naotech Team.
Cédric, ouais, voilà. T'abuses quand même. Je sais que tu t'ennuies.
Ouais, Cédric, il y avait tes empreintes partout. Hein.
Bon, ok, allez, je vous rends les clés.
écoute, j'ai une suggestion, Jérôme. Naotech fucking Team.
Non, trop tard. Attends, ça
est-ce
nous
que tu l'as Est-ce que tu l'as Naotech fucking team.
NFT, oui.
Ou alors Now fucking tech. Now fucking tech, ça marche aussi.
Bon. Ah, c'était pas mal. Ah, c'est pas mal, Patrick. J'aurais dû te prendre à la communication, en fait. ou pas.
Ça peut pas du tout être détourné, en plus. Très bien, Naotech Team, sur tous les réseaux sociaux. Allez y jeter un coup d'œil. Pour ma part, c'est notepatrick.com où vous retrouvez tous les liens vers tous les réseaux sociaux. Bon, c'est notepatrick un petit peu partout. Mais vous avez aussi le lien pour vous abonner à la newsletter. Il y a plein de sujets que j'ai pas eu le temps d'évoquer, dont je parlerai peut-être dans le l'after show qu'on va faire juste maintenant pour les Patriotes, mais qui sont aussi dans la newsletter, donc vous pouvez vous y abonner pour recevoir ces infos tous les vendredis, et bien sûr, patreon.com/rdvtech, vous pouvez aller soutenir l'émission là-bas, pour le prix d'un café, quand vous arrivez chez vous, vous connaissez la formule magique, Kling Patrick, merci Cédric qui connaît, vous pouvez mettre les clés, quand vous mettez les clés dans le bol, ça vous rappelle immédiatement qu'il faut absolument penser à Patrick et à le soutenir. Merci à vous tous et à vous toutes. On vous fait de grosses bises. N'oubliez pas le rendez-vous jeu dans 2 jours où on va parler de toute l'actu gaming. Il y a plein de choses en ce moment, donc il ne faut pas le rater. Et on se retrouve, nous sinon, dans le rendez-vous tech la semaine prochaine. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.